Alors, Tor, juste pour essayer de mieux cibler le public, qui est-ce qui parmi vous utilise Tor? Ok. Qui est-ce qui parmi vous connaît comment ça fonctionne, même dans les grandes lignes? Ah, c'est pas mal. Ok.
Pour la vidéo, il y a à peu près la moitié de la salle qui utilise Tor et presque tout le monde qui sait à peu près comment ça fonctionne.
On va quand même revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est que Tor. Tor, c'est trois choses qu'on appelle toutes Tor. C'est un logiciel libre. Ce logiciel est installé sur un certain nombre de machines, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles et des serveurs. Et tout ensemble, elles forment le réseau d'anonymisation Tor. Et le projet est soutenu par une organisation à but non lucratif qui s'appelle The Tor Project. Alors, techniquement, Tor, en fait, ça permet de se connecter à des machines sur Internet via un système de relais. Et l'idée de Tor, c'est qu'on ne puisse pas identifier la connexion qui est utilisée, notre connexion, quoi, qui est utilisée pour accéder à une machine sur le réseau. Et alors, donc, on estime à ce qu'il y ait entre 500 000 et 900 000 personnes chaque jour qui se servent de Tor. Et concrètement, ben, Tor, ça sert à échapper au fichage publicitaire. Ça sert à publier les informations sous un pseudonyme. Ça sert à accéder aux informations en laissant pas ou peu de traces. Ça sert à déjouer des dispositifs de filtrage, que ce soit dans son université, en Chine ou en Iran. Ça sert à communiquer en déjouant des dispositifs de surveillance qui écoutent le réseau. Pour les administrateurs système, ça sert à tester son pare-feu. Et voilà, et il y a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres usages qui sont faits du réseau Tor. Voilà, c'est une estimation entre 500 000 et 900 000 personnes, parce que c'est un réseau d'anonymisation. Si on était capable de donner un chiffre précis, c'est qu'on aurait un problème. Vous voyez, de façon dont c'est fait, on ne peut pas compter, quoi. Une des autres choses que permet le réseau Tor, mais dont je ne vais pas parler ici, c'est un système qui s'appelle les services cachés, et qui, pour le coup, quand on utilise Tor d'habitude pour accéder à des sites web ou d'autres machines sur Internet, ce qu'on cache, c'est là où se trouve le client. Là où nous on se trouve quand on accède au site. Le système des services cachés permet de cacher l'emplacement du serveur. Et donc quand on veut servir des informations sensibles, ça peut être intéressant. Un des détails que des fois est pas forcément très bien compris par rapport à Tor, c'est que Tor veut pas du tout cacher le fait qu'on utilise Tor. Quand on utilise Tor, en fait, on se met au milieu de cette foule là de 500 000 personnes chaque jour et on est c'est pas possible de nous différencier des autres personnes de cette foule. On est une connexion anonyme au milieu de toutes les autres connexions qu'utilise Tor. Mais ça se voit qu'on est une connexion qu'utilise Tor. Et en tout cas, ce qu'il faut voir, qui est vraiment intéressant dans comment Tor a grossi ces dernières années, c'est que les réseaux d'anonymisation aiment la compagnie, ont besoin de beaucoup de monde. Et plus il y a de personnes qui utilisent Tor, meilleur est l'anonymat. Puisque si on est une personne au milieu de 10, on est moins anonyme que si on est une personne au milieu d'un million. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent habiter des grandes villes plutôt que des villages, vous voyez. Et on a vraiment, ces dernières années, une convergence à la fois des gens qui utilisent, mais aussi des développeurs ou de la recherche autour du réseau Tor. Et c'est l'outil principal d'anonymisation à l'heure actuelle qui existe sur Internet. Alors, comment ça fonctionne Tor? Rapidement, parce que plein de gens avaient l'air de connaître. Tor, ça fonctionne avec 3 000 machines que font tourner des bénévoles, qu'on appelle des relais ou des nœuds. Et donc, là, c'est un exemple de comment ça se passe pour une connexion d'un ordinateur portable vers un site web qui est en bas à droite. Le réseau d'anonymisation Tor qui est au milieu, là, dans ce nuage. Et donc, il y a quelques relais qui sont représentés. C'est tous les petits ronds avec écrit Tornode, là. Cette liste de relais, elle est publique. On sait, les 3 500 machines qui composent à l'heure actuelle le réseau Tor, on les connaît. C'est une liste publique que le client télécharge quand on démarre. Et ça permet au client d'avoir une image du réseau Tor. Et ensuite, ce que le client fait, c'est que par rapport à la liste qu'il connaît de toutes les machines, toutes les relais disponibles, il va en choisir trois. Il va choisir un nœud d'entrée, un nœud du milieu et un nœud de sortie. Et ensuite, ce qui se passe avec une fois qu'il a choisi ces trois nœuds, c'est qu'il y a un dispositif pour mettre en place un tunnel qui va relayer notre connexion par l'intermédiaire de ces trois nœuds, de façon à nous connecter jusque au site web. La connexion est chiffrée à l'intérieur du réseau Tor Et quand elle quitte le réseau Tor pour rejoindre le serveur web ici, à ce moment-là, on perd le chiffrement que nous donne le réseau Tor. Et donc, pour expliquer pourquoi on parle d'oignon tout le temps, c'est parce qu'en fait, ce tunnel qui est établi entre les trois relais, il se fait en oignon. On a des couches de chiffrement qu'on voit ici, qui sont empilées les unes au-dessus des autres, parce que en fait, notre client, il va d'abord faire une première couche pour chiffrer vers le dernier nœud, vers le nœud de sortie. Il va prendre cette première boule de chiffrer, ces premiers jeux de données indéchiffrables, et il va le rechiffrer pour le nœud du milieu, deuxième couche. Et il va prendre ça et il va le rechiffrer pour le nœud d'entrée. Et il envoie ça au nœud d'entrée. Le nœud d'entrée déchiffre, puisqu'il est le seul à le pouvoir le faire. Il reste une couche de données qu'il envoie au nœud du milieu, qui lui déchiffre, qui envoie au nœud de sortie, et le nœud de sortie ensuite déchiffre pour arriver jusqu'à notre serveur de destination. Et la même l'opération inverse quand les données reviennent. L'intérêt de ça, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas possible pour le nœud de sortie de savoir d'où on part, et ce n'est pas possible pour le nœud d'entrée de savoir où on va. Et c'est comme ça qu'on arrive à cacher l'origine et la destination de nos communications à l'intérieur du réseau Tor. Donc ce système-là, on l'appelle le routage en oignon. Et c'est ça qui fait que voilà, tous les gens qui bossent autour du réseau Tor, ils sont un peu fétichistes des alliums SEPA, s'il y a des botanistes dans la salle.
Du coup, pour simplement utiliser le réseau Tor, il y a des outils qui sont mis à disposition qui permettent de le faire simplement. Si on veut juste faire du web, il y a le Tor Browser Bundle qui permet en 2-3 clics, sans rien installer, d'utiliser le réseau Tor pour faire juste du web. Ça ressemble à ça. Ça inclut trois choses. Ça inclut le logiciel Tor, qu'on voit pas, Vidalia, qui est une interface graphique pour l'utiliser, et un Firefox un peu modifié. Ensuite, le Tails, qui est une distribution de Linux basée sur Debian, qui permet, qui ne communique sur le réseau qu'en passant par Tor. Donc ça permet de communiquer en étant anonyme, enfin d'être anonymisé par Tor sur toutes les connexions réseau. Et il y a aussi des applications mobiles, mais ça je pourrais pas bien en parler parce que j'ai pas de téléphone, qui sont hors bot et hors web. Ça ressemble à ça quand on est en Russie. Ça ressemble à peu près à la même chose avec le texte en français en France, certainement. Je sais pas, j'ai pas de téléphone, mais a priori ça fonctionne.
Et alors je voulais revenir sur toute une série de... Voilà, Tor, c'est pas un outil magique. La sécurité, c'est pas un produit, c'est un processus. Et une fois que ça s'est dit, je veux bien revenir sur ce que Tor ne fait pas. Parce que Tor ne sait pas faire plein de choses. Entre autres, il va pas magiquement protéger la communication entre le nœud de sortie et le serveur web. Et alors, il faut se rendre compte, c'est que ça a un aspect particulier. Comme n'importe quel bénévole peut se mettre à contribuer au réseau Tor, n'importe qui peut faire tourner un nœud de sortie. Donc n'importe qui peut éventuellement voir votre communication passer. Donc si vous vous connectez en utilisant Tor à un site web, ou par exemple vous allez mettre des identifiants, un login, un mot de passe, il faut vraiment que la connexion vers ce site elle soit chiffrée en HTTPS, par exemple. Sinon, il y a de fortes chances que le nœud de sortie... en tout cas, le nœud de sortie verra passer... Si la communication est en clair, votre login, votre mot de passe. Et malheureusement, comme il y a des nœuds de sortie qui sont mal intentionnés et qui écoutent les communications, faut considérer ce login et ce mot de passe comme compromis, quoi. Donc voilà, un truc à faire gaffe. Quand on utilise Tor, ça ne dispense absolument pas de bien s'assurer qu'on chiffre les connexions vers sa destination finale. Cela étant dit, il y a d'autres choses contre lesquelles Tor ne protège pas du tout. Et c'est lié aux questions de latence. La latence, c'est le temps que met une donnée pour transiter sur un réseau. Des fois, on parle de lag aussi. Tor, c'est un réseau d'anonymisation à faible latence. C'est-à-dire que quand on met une information quand notre ordinateur portable en haut à gauche, là, il envoie une information dans le réseau Tor, elle va aller le plus vite possible à destination du serveur web. Moyennant, vous voyez, il faut que ça rebondisse parmi les trois relais, ça fait trois fois le tour de la Terre, mais on arrive au serveur web à la fin, le plus vite possible. Donc ça, c'est un réseau à faible latence. Un réseau à forte latence, pour vous donner un exemple, c'est la poste. Quand on met une enveloppe dans la boîte aux lettres, il peut se passer un certain nombre de jours et le courrier il arrive à peu près toujours en même temps au destinataire, quoi, entre 11 et 13 heures, 14 heures, depuis les réductions d'effectifs. Et du coup, ça, c'est un réseau à forte latence. Les réseaux d'anonymisation à faible latence, il y a des choses contre lesquelles ils ne peuvent pas protéger. Et donc, c'est le cas de Tor. Parce que, en fait, dans les réseaux d'anonymisation à faible latence, si on a un adversaire qui est capable d'écouter les deux bouts, c'est-à-dire à la fois au niveau de l'entrée et au niveau de la sortie, et ben juste, non pas, peu importe si c'est chiffré, peu importe toutes les protections qu'on veut mettre en place, il suffit de regarder la forme et la fréquence des communications pour faire le lien. Si on voit passer 30 kilos vers le réseau Tor et puis une seconde plus tard 30 kilos du réseau Tor au serveur web, si je suis en train d'écouter les deux endroits en même temps, vous voyez, je vais pouvoir me dire « Ah, sans doute c'est ça ». Pour vous donner un petit exemple précis, petite histoire. Imaginez Val. Val publie régulièrement des photos sur son blog et sur ces photos, en fait, elle s'en sert pour dénoncer les dégâts environnementaux que fait son entreprise. Alors, c'est une grosse boîte, mais en fait, elle bosse dans la filiale française. Il y a une dizaine de cadres seulement qui savent que, en fait, la boîte, elle rejette tout direct dans la rivière à côté. Puis, comme elle est en train de polluer l'environnement plutôt que dépenser plein de sous pour correctement retraiter ses déchets, eh ben, ça lui économise plein de fric. Et avec ce fric, par exemple, elle peut enquêter sur « Mais qui c'est cette personne qui est en train de nous pourrir la vie en publiant des photos compromettantes sur son blog ?» Alors, comme il y a une dizaine de personnes seulement qui ont accès à cette information, eh ben, qu'est-ce que fait l'entreprise, vu qu'elle a des thunes ? Eh ben, hop, elle va payer des gens pour juste se mettre devant la maison des différents cadres, là, dont je parlais tout à l'heure, avec une antenne Wi-Fi, et de regarder les paquets qui passent. Puis là, il y a Val, une nuit, genre il est 1h du matin, elle publie son dernier article, elle le fait de son lit avec son ordinateur portable en Wi-Fi. Pendant ce temps-là, tous les autres cadres dorment. Manque de bol, il y avait une personne devant, qui était en train d'écouter ce qui passait sur le réseau Wi-Fi. C'est les ondes radio, donc ça traverse les murs, hein. Elle était en train d'écouter ce qui passait sur le réseau Wi-Fi. Et là, deux secondes plus tard, il y a un nouvel article. Tous les autres cadres y dormaient, il n'y avait rien sur leur réseau. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Val après ce bout de l'histoire, mais vous voyez que... Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas du tout Tor en jeu. Que Val, elle utilise Tor ou pas Tor, dans ce cas-là, elle a perdu quoi. Mais en tout cas, cette attaque-là, elle est faisable avec Tor, et il faut s'en méfier, et c'est vraiment une limite... de ce que ne permet pas Tor, de ce contre quoi ne protège pas Tor. Et du coup, c'est une des choses qui fait qu'on dit que Tor ne protège pas contre l'adversaire global. L'adversaire global, ça serait un adversaire qui serait capable d'écouter tout le réseau Internet en même temps. Voilà, Tor ne saurait pas faire ça. Mais du coup, c'est pour ça que c'est très important aussi de ne pas réduire le réseau Tor à une condition où on aurait presque un adversaire global. C'est-à-dire, si jamais les trois nœuds Tor ils sont dans la même pièce, relié par des câbles réseau, vous voyez, et ben, on aura le même problème parce qu'il suffirait d'écouter juste ce qui se passe sur ce petit bout dans cette pièce et on pourrait recouper les informations et percer l'anonymat des gens. Et d'ailleurs, je vais en profiter, j'aime pas les VPN, entre autres parce que contrairement à Tor où il faut monter des attaques compliquées, où il faut écouter plusieurs points du réseau en même temps, etc., avec un VPN, ou un proxy, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est au même endroit, c'est une machine, quand je l'écoute, boum, j'ai gagné. Un adversaire qui écoute cette machine, il a gagné, il peut percer l'anonymat, l'anonymat entre guillemets, en tout cas retrouver tous les gens qui utilisent le VPN. Donc voilà pourquoi Tor a de nombreux avantages par rapport au VPN. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très important que les relais, ils ne soient pas reliés entre eux, qu'ils ne soient pas liés entre eux, qu'ils ne soient pas dans la même pièce, qu'en tout cas on ne puisse pas les prendre tous en même temps. Et donc c'est pour ça que pour que le réseau Tor fonctionne, on a besoin de diversité. on a besoin que les relais soient administrés par des personnes différentes, parce que si jamais c'est les mêmes personnes, elles peuvent se mettre d'accord pour enregistrer les communications des gens. On a besoin que ce soit situé dans des pays différents, parce que sinon les forces de répression peuvent demander à surveiller telle et telle machine, et plus c'est transnational et plus c'est difficile pour les forces répressives de se mettre d'accord. Donc c'est intéressant pour protéger les gens qui utilisent Tor. C'est important qu'elle soit située dans des réseaux différents, parce que sinon un administrateur réseau pourrait écouter et corréler les communications. Et alors, le dernier point, il est vraiment plus technique et lié à la façon dont une partie d'Internet est construite, qu'on appelle les points d'échange. Les fournisseurs réseau qui fabriquent Internet, ils ont des grosses patates comme ça qu'on appelle des systèmes autonomes. Et dans un système autonome, c'est, si on prend Theta Neutral, ça doit être 2 ou 3 réseaux. Si on prend Free, c'est des milliers, centaines de milliers. Et en tout cas, tout ça, comme c'est une même autorité administrative, ça forme un système autonome. Et la façon dont Internet est construit, c'est qu'on interconnecte des systèmes autonomes ensemble. Cette histoire de point d'échange, c'est que pour interconnecter ces systèmes autonomes, plutôt que de tirer un câble vers chacun des autres systèmes autonomes qui sont autour de moi pour pouvoir échanger des données, et ben on va tous tirer un seul câble au même endroit, on va se brancher sur la même prise réseau, sur le même switch, et à partir de là on va pouvoir échanger, je vais pouvoir échanger avec toutes les autres personnes qui sont connectées sur le switch en tant que fournisseur réseau. Et ça c'est intéressant parce que ça simplifie beaucoup, ça diminue les coûts, ça simplifie la vie, etc. Donc il y a des très gros points d'échange. Le problème pour Tor, c'est que si les relais sont tous connectés au même point d'échange, eh ben, il suffit d'écouter ce switch, cette multiprise réseau, et on peut pareil monter tout un tas d'attaques comme ça si on voulait percer l'anonymat des gens. Alors, il y a quand même quelques protections qui sont dans le logiciel hein, par rapport à ces problèmes-là. Par exemple, dans le logiciel Tor, c'est possible pour des gens qui font tourner des relais de déclarer que plusieurs relais font partie de la même famille. Quand nos oignons, j'y viens, mais fera tourner des relais, on le déclarera de façon à ce qu'un circuit ne soit pas construit sur 2 relais qui sont gérés par nos oignons, de façon à ce qu'on ne puisse pas nous demander de les écouter et de lier les choses. Voilà, il y a une limite, c'est que ça c'est complètement volontaire, quoi. C'est les gens qui administrent les relais qui déclarent qu'ils font partie de la même famille. Donc c'est possible de monter des attaques où on fait tourner plein de relais, en tout cas les adversaires font tourner plein de relais tort d'un coup et respectent pas ce code-là, quoi. Tor fait rien de particulier pour essayer que les circuits soient dans des pays différents. Et il fait un peu pour la question des réseaux différents, c'est-à-dire que il va pas prendre 2 relais qui font partie du même /16 IPv4. C'est-à-dire s'ils sont trop proches en termes d'adresse, quoi. Mais pour faire une analogie au téléphone, 0476 c'est plutôt la région de Grenoble. Mais enfin plutôt l'Isère, sauf que maintenant en fait je peux aussi avoir un numéro en 0476 que j'ai porté et qui va être à Paris, et du coup ce truc là qui est à peu près la même chose qui est utilisé par Tor à l'heure actuelle, c'est un peu bancal, quoi. Pour l'instant il n'y a personne qui bosse sur la question des points d'échange. Si ça vous intéresse, il y a un domaine de recherche gigantesque et sûrement il y a des financements pour faire des études là-dessus. Donc voilà, pour que Tor marche, we need to be everywhere. Histoire de ne pas arriver comme ça en vous disant tout est beau, tout est joli, il y a des schémas un peu d'analyse de l'état du réseau Tor à l'heure actuelle. Alors peut-être ces schémas sont un peu pas forcément très très faciles à lire, mais on va expliquer un peu. En bas là, sur l'abscisse. Sur l'abscisse, les X, c'est le cumul, c'est le nombre d'opérateurs qu'on va considérer. Donc les règles, c'est quand on est à 10, on est à les 10 premiers opérateurs. À 20, c'est les 20 premiers opérateurs, etc. Et il y en a 100. Et dans les ordonnées, là, on a le nombre de relais, le cumul, du nombre de relais quand on prend ces X opérateurs. Donc ici, par exemple, quand on est à, quand on prend les 10 premiers opérateurs, on arrive à une centaine de relais. Vous voyez, sur le 10 en bas, on arrive à peu près au milieu de 200. Ouais. Ce qui fait que quand on est à 100, on est à je sais pas, 380 par exemple, quelque chose comme ça. Et dans le camembert, là il y a les trois premiers, c'est les trois points qui sont marqués en vert. Et donc le bilan, c'est que si on prend juste le compte du nombre de relais, eh ben, on arrive à ce que voilà, les trois premiers opérateurs ils gèrent 75 relais sur 3500, puis après ça augmente très 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 doucement. C'est-à-dire que si on élimine les plus gros, les plus grosses familles de relais, on a l'essentiel des relais, des gens ils gèrent un ou deux relais, mais pas beaucoup plus. Alors ça c'est en nombre de relais. La réalité est un peu plus compliquée et vous allez comprendre pourquoi. L'idée, c'est d'optimiser la bande passante.
Oui, les paquets IP, c'est un peu comme des voitures. Ça va d'un point A à un point B. Et comme les voitures, quand on a des autoroutes ou des petites routes de campagne, si on en a beaucoup à faire passer, il vaut mieux prendre l'autoroute. Parce que sur la petite route de campagne, ça va juste pas marcher, ou pas bien, ou ça va prendre du temps. En réseau, ça ressemble plus à ça. À gauche, on a des modems et à droite, on a de la fibre optique. Si on veut que ça aille vite, il vaut mieux passer dans de la fibre optique. Et ça a un coût.
Pourquoi c'est ça, ça a du sens dans le réseau Tor ? C'est parce qu'il y a des relais qui sont mis en place par des gens derrière des connexions ADSL et d'autre part, des relais qui sont mis en place par des gens qui ont une connexion fibre optique, et le rapport de l'une à l'autre peut être de l'ordre de 100 voire 1000. Comme on établit un circuit et qu'on passe par trois de ces relais, le goulot d'étranglement, c'est le relais qui a la plus petite connexion. Donc pour que le réseau Tor marche bien, on va avoir besoin de passer par des gros relais et si possible que les trois relais soient assez gros. Dès qu'on passe par un relais qui a une petite connexion, qui a une connexion avec peu de bandes passantes, et ben hop, ça va ralentir tout le circuit. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le réseau Tor en entier, si on prend tous les relais, on a à peu près 32 gigabits par seconde de débit disponible. Ce qu'on arrive à utiliser pour l'instant, c'est autour de 20 gigabits, à cause de ces histoires de goulot. Et si on prend l'évolution de la latence, ça c'est un graphe qui représente donc combien de temps ça met à télécharger 50 kilooctets. Aujourd'hui, on est autour de 2 secondes. Et on est autour de 2 secondes parce que on a un système qui, depuis 2004, en fait, au lieu de prendre simplement les relais au hasard, et ben on va préférer les relais qui ont un gros tuyau, de façon à envoyer plus de clients Tor sur l'autoroute que sur la route de campagne. Et donc là, c'est pour ça qu'on a, là depuis 2012, vous voyez que ça marche assez bien, on a un système de mesure de bande passante qui fonctionne, et on arrive à garder un réseau Tor qui est relativement rapide. Là, quand on télécharge des... Parce que ce qui prend du temps aussi, c'est d'établir les circuits, de se connecter à tous les relais, d'échanger des clés de cryptographie, etc. Du coup, quand on télécharge des petits fichiers, des petites données, on a un débit qui est de l'ordre des téléphones 2G, le Edge, là. Et quand on télécharge des gros fichiers, on est plutôt autour d'un mégabit, c'est la DSL de campagne. Et donc ça, on y arrive parce qu'on préfère utiliser les relais qui ont beaucoup de bandes passantes. Alors, pour expliquer la suite, il faut que j'introduise la notion de consensus. Le consensus, c'est l'endroit où sont listés tous les relais qui font partie de Tor. Et c'est ce fichier-là que va télécharger le client Tor quand pour se connecter au réseau. Et donc, Alors c'est écrit petit parce que c'est un très long fichier, parce qu'il y a 3500 relais, vous voyez. Mais les premières lignes, là, c'est ce qu'on appelle les annuaires qui faisant autorité, les directory authorities. Et donc aujourd'hui, il y en a 9. Là, on voit, c'est Turtle, Matsuka, Dannenberg, etc. Ça, c'est les 9 machines qui se mettent d'accord sur l'état du réseau Tor. Elles discutent entre eux. Toi, est-ce que tu as vu tel relais? Ah oui. Ah oui, il m'a dit qu'il avait telle adresse IP. Bon, mais moi aussi. Ok, alors on va voter. Et en fait, il y a un système de vote entre ces machines. Et c'est pour ça qu'on appelle un consensus, c'est parce qu'elles sont d'accord. Et elles publient les informations sur lesquelles elles sont d'accord. Donc on appelle ce document le consensus. Et si vous regardez dans le consensus, on a des indications sur la bande passante des relais. La toute dernière ligne, là en bas, c'est bandwidth égale 6960. Et donc ça, c'est la bande passante qui a été mesurée pour ce relais-là. Et donc la popularité d'un relais, c'est-à-dire sa chance d'être utilisé, on va appeler ça le poids dans le consensus. Plus un relais a de bande passante, et plus il a des chances d'être utilisé, et donc plus il va être fort dans le consensus. Et alors si on regarde le poids dans le consensus, et ben le graphe de tout à l'heure, il change tout à fait, malheureusement. Donc de la même manière, en bas, on a toujours on prend les x premiers opérateurs. Et à gauche, on a le pourcentage dans le consensus. Quand on est tout en haut, on est à 100. Et là, si on regarde, eh ben, le premier opérateur de relais Tor à l'heure actuelle, qui est Tor Servers, il pèse 10% du consensus. Le suivant, c'est une des familles gérées par le Chaos Computer Club. Elle fait 5,7. Defri, qui est une organisation en Suède, ils font 2,5, là, 2,8. Et donc ça fait que si on prend les 40 premiers opérateurs, là, hop, on monte, on arrive à 50%. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a 40 personnes qui sont capables de voir la moitié du trafic du réseau Tor. C'est pas idéal. Si on prend les pays, c'est assez violent. Il y a la moitié du réseau Tor, il y a un quart du réseau Tor, c'est aux États-Unis, un quart du réseau Tor, c'est en Allemagne, et après il y a encore quelques pays européens. La France, c'est 5,8, et puis le reste, les 64 derniers là, c'est 15%, c'est vraiment pas grand-chose. Donc en fait, heureusement que c'est pas, je sais pas, Israël par exemple à la place de l'Allemagne, vous voyez, ce serait vraiment gênant. Si on prend la répartition par réseau, donc ces histoires de /16 IPv4, on a 60% du réseau Tor qui est sur 50 blocs réseau différents. Donc de la même manière, on a un manque de diversité là-dessus, quoi. Mais sur cette partie-là, ça va. Par contre, si on prend au niveau des systèmes autonomes, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a un quart du réseau Tor qui se trouve chez 5 fournisseurs réseau différents. C'est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire que si je suis une force de répression, et ben j'ai 5 autorités administratives à voir, 5 opérateurs réseau, et je leur demande de mettre des sondes dans leur réseau, et je suis capable de reconstituer un quart à peu près du trafic du réseau Tor, a priori. Peut-être c'est pas forcément la meilleure manière de l'interpréter, mais en tout cas on peut penser ça. Alors pour l'anecdote, hein, OVH a toujours dit je ne veux pas Tor sur mon réseau. Octave, vous retrouvez. Octave a dit plusieurs fois je ne veux pas de Tor sur mon réseau. Et alors si on s'intéresse juste à la question des nœuds de sortie, donc vous voyez le dernier nœud de la chaîne des trois. À l'heure actuelle, on a 849 nœuds qui autorisent, parce qu'en fait, c'est l'opérateur qui décide est-ce que je vais laisser sortir les nœuds Tor par mon relais ou pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment être nœud de sortie, c'est ça qui est l'appât en merde, c'est ça. Puisque le serveur web voit l'adresse IP du nœud de sortie, et ben, quand il y a une enquête, la première chose que les premières personnes qu'on va voir, c'est les personnes qui gèrent le nœud de sortie. Et malheureusement, voilà, il y a des gens à qui ça, on leur a un peu défoncé leurs portes, pris tous leurs ordinateurs, parce qu'ils faisaient tourner un autre sortie et qu'il y avait leur nom attaché. Voilà. Donc on est à 849 nœuds de sortie sur les 3411 relais. Et donc, comment c'est leur diversité ? Eh bien, c'est pas joyeux non plus. Si je prends en termes d'admin, on a 22% qui sort chez Tor Servers. Et une connexion sur 5, quoi. Donc ça veut dire que les gens qui ont accès qui veulent écouter ce qui sort du réseau Tor, il leur suffit d'écouter les machines de torservers.net. Et ils ont, hop, direct, une connexion sur 5, ils peuvent écouter ce qui sort, quoi. Et si on prend les 8 premiers groupes d'admin, eh ben, ils peuvent écouter une connexion sur 2. C'est pas la joie. Alors, en termes de pays, on est à sensiblement la même chose que tout à l'heure. Par bloc réseau, ça se tasse, quoi. C'est-à-dire, on a 40% des connexions qui sortent par les 8 mêmes blocs réseau. Donc encore une fois, c'est assez facile d'écouter ce qui sort de Tor, en fait. Enfin, facile, toute proportion gardée, hein, mais je veux dire quand on est un état, vous voyez, par exemple. Et donc en termes de système autonome, on a, voilà, il suffit d'aller voir 10 fournisseurs réseau et on a 6 connexions sur 10. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, c'est même pas la peine d'aller voir les fournisseurs réseau. Il suffit de se brancher sur les switches qui les interconnectent et on a beaucoup, quoi. Du coup, partant de ce constat un peu en se disant « l'anonymat qui me donne le réseau Tor n'est pas forcément idéal. Comment on peut améliorer la situation ?» Eh ben, il y a vraiment un truc à se rendre compte, c'est qu'il faut améliorer la situation. C'est simple, plus il y a de personnes qui utilisent Tor, meilleur est l'anonymat que nous donne Tor. Et donc c'est crucial que Tor reste utilisable. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, ce truc de faire la priorité aux relais qui ont beaucoup de bandes passantes, c'est trop dangereux, ça fait qu'il y a trop d'informations qui passent au même endroit et du coup on a un problème. Mais en fait, ça, c'est pas une solution parce que moi, je me sers de Tor tous les jours. Tous les jours. Et je me sers de Tor tous les jours parce que quand je demande une page sur un site web, bah, ça met une seconde, deux secondes à s'afficher. Allez, 5 les mauvais jours. Mais ça ne met pas 15. Il y a 5 ans, quand un certain nombre de gens ont essayé de se servir de Tor, on était à 5 secondes, 15 secondes de délai. Depuis que les algorithmes se sont améliorés, depuis qu'il y a des gens qui font tourner des gros nœuds, voire des très gros nœuds Tor, et ben on a un réseau qui est utilisable. Et donc Tor doit rester utilisable. Et donc ce qu'il faut pour rééquilibrer, et ben c'est mettre davantage de gros nœuds. Et comment on fait pour faire tourner davantage de gros nœuds ? Eh bien, on fait une équipe et puis on s'y met à plein. Et comme ça, on peut mettre de l'argent et des ressources en commun et du temps. Et hop, on peut faire tourner des gros nœuds. Alors, il y a des gens qui ont commencé à faire ça. C'est d'ailleurs les personnes qu'on voit dans les tops des opérateurs. Le Chaos Computer Club fait tourner pas mal de relais. Noisebridge, le hackerspace de San Francisco, ils collectent des dons et en bitcoin et en dollars et puis ils font tourner des nœuds sortis Tor. Defri qui fait ça en Suède. Torservers.net qui est devenu du coup la plus grosse asso qui fait ça en ce moment. Et il y en a d'autres, plus petites. L'intérêt de pourquoi je vais m'attacher à Torservers.net tout de suite, c'est parce que voilà, le projet a été monté en mai 2010 par Maurice Bartel. Et le mail que je mets en lien, là, c'est son premier mail qui déclare, il dit « On a un problème de diversité dans le réseau Tor. Il y a 25% du trafic qui sort par le même relais, ça ne va pas du tout. » Et ça lui a donné envie de créer donc Zwiebelfreunde et de collecter des dons et de faire tourner des gros nœuds de sortie. Et le bilan, c'est que le gros nœud de sortie qui faisait un quart du trafic depuis, il a été arrêté, c'était Blutmagi. Et il est devenu... Tor Servers est devenu le plus gros fournisseur de relais Tor à l'heure actuelle. Mais Moritz, heureusement, il a publié il y a l'été dernier un how-to. Il a dit voilà comment j'ai fait pour créer Tor Servers. Et il a dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une association. Donc voilà, ayez une entité morale qui ne soit pas vous. Une personne morale, bam, créez une association. Il faut un numéro de fax parce que les forces répressives adorent les fax. Il faut un numéro de téléphone parce que c'est pareil, les gendarmes aiment bien appeler les gens au téléphone et laisser des messages. Il faut créer des enregistrements administratifs pour les IP, c'est-à-dire que quand on enquête et qu'on dit « Ah, qui est-ce qui gère telle adresse Internet ?» ça réponde le nom de l'association et non pas le nom du fournisseur d'accès. Comme ça, ça permet que les gens qui se disent « Ah, il y a des abus, ça ne va pas du tout », eh ben, ils envoient directement le mail à l'association et non pas au fournisseur. En général, les fournisseurs, ils n'ont pas que ça à foutre. Alors, voilà. Il faut trouver des bons hébergeurs. Et à trouver des bons hébergeurs, ça, c'est la partie un peu coton, parce qu'il faut des hébergeurs qui veulent bien héberger Tor. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut des hébergeurs pas chers, parce que c'est beaucoup de bande passante, alors ça fait beaucoup d'argent vite. Et dès qu'on met un relais Tor, en gros, il est utilisé très très vite. Hein. Et surtout, vu que la question, c'est d'améliorer la diversité, il ne faut pas que ce même fournisseur il soit déjà utilisé par un autre relais. Donc, les perles rares, c'est-à-dire ceux qui veulent bien héberger Tor et qui sont pas chers, ils sont déjà tous pris. C'est aussi pour ça que c'est important de créer des associations pour collecter des dons. Parce qu'on peut mettre plus d'argent et donc aller chez des fournisseurs un tout petit peu plus chers. Et voilà, un autre élément, c'est qu'il faut être rapide à répondre aux notifications d'abus. Parce que, en gros, si on répond tout de suite à la police, « Ah, non mais c'est un auteur en fait. Regardez, je ne suis pas à l'origine de cette transmission, ça ne sert à rien de venir me voir, je n'ai pas d'informations. » Eh bien, ils vont faire autre chose pour avancer leur enquête que défoncer ma porte. Alors, un petit groupe de gens, donc en juillet 2012, se disent qu'il est temps de s'occuper de nos oignons. Alors, ça faisait des années qu'on en parlait. Hein. Ça flottait dans l'air. Ah, et si on montait une asso pour faire tourner des relais Tor ? Jonathan, qui rigole dans la salle, m'a déjà entendu parler de ça, des années avant. Et on a commencé en juillet 2012 à faire pas mal de recherches. On a lancé un appel aux bénévoles... en janvier 2013, après le 29e Chaos Communication Congress. Et ce matin, est parue au journal officiel la déclaration de création de nos oignons. Donc c'était la bonne surprise du réveil. Voilà, et donc là maintenant, on a 5 personnes au conseil d'administration, qui est un conseil solidaire. Normalement, on devrait tous partir au tribunal en même temps, si jamais ça devait se passer. On a un comité de déontologie, histoire de s'assurer que l'argent qu'on collecte des dons n'est pas utilisé pour faire autre chose. Et donc dedans, on a Jean-Marc Manac, Bluetooth, Jérémy Zimmerman qui parle à 6h, Grégoire Pouget de Reporters sans frontières et Stefano Zaccaroli qui est le précédent Debian Project Leader. On a une équipe de 7 admin 6 et voilà, on... Ça y est, quoi. C'est paru au journal officiel ce matin, on va pouvoir créer le compte en banque, on va pouvoir avancer. L'autre chose aussi, c'est que depuis une heure, c'est possible de donner des sous à nos oignons, ça y est, puisque la collecte de sous se fait par le Fonds de défense de neutralité du net. Et donc, même si on n'a pas encore le compte, on peut déjà collecter des sous. Alors, pour vous donner un extrait... On a mis le budget, histoire que ça vous donne une idée de où partent les sous.
Oui, moi je trouvais que c'était important de se rendre compte combien ça coûte de faire tourner des nœuds Tor et des nœuds de sortie. Donc, il y a le détail là que je ne vais pas lire, parce que vous le voyez. 200 euros par mois pour du 100 mégabits symétrique, c'est pas très cher. Ça peut coûter souvent plus cher. Et ce qu'on voit bien là, c'est que ce qui coûte vraiment de l'argent, c'est les relais en eux-mêmes et les provisions pour frais de justice. Le surcoût au-delà est que de 6%, donc toute la partie administrative est marginale en fait. Et donc on a besoin de 6400 euros pour un an. Il faudra la même chose l'année prochaine. Du coup, vous pouvez participer en rejoignant l'association qui existe depuis ce matin. Vous pouvez donner des sous depuis une heure. Et vous pouvez nous héberger si vous êtes hébergeur. On sera bien content. Du coup, comme vous le savez peut-être, on a pour le THSF monté un autonomous système qu'on a fait avec nos petits bras. Et donc, comme c'est un réseau expérimental qui dure que à peu près une semaine, j'ai installé un nœud de sortie Tor qui fonctionne depuis hier, pour voir, parce que je ne l'avais jamais fait d'abord, pour voir comment ça marche. donc on va voir tout de suite si ça marche. En fait, la première conclusion que j'ai à peu près à l'heure qu'il est, c'est que ça met longtemps à s'annoncer et à arriver dans le consensus à une bonne place. Parce que j'annonce que j'ai beaucoup de bande passante, mais ils veulent la mesurer et avant de me faire confiance. Et ils mettent le consensus met longtemps à se mettre en place. Donc finalement, mon nœud de sortie, qui est à peu près 1 gigabit symétrique de capacité, il n'est pas vraiment utilisé. Ça, c'est l'outil qui permet de visualiser l'état des nœuds du réseau. Donc mon nœud s'appelle THSF. Il a pour adresse IP 151.216.8.91. Il y a des... Non, c'est pas celui-là qui est allumé. Voilà, c'est celui-là qui tourne pour de vrai. En fait, en bande passante, depuis hier, on est monté jusqu'à 2 mégas symétriques. Enfin, on n'est pas monté au-dessus alors qu'on a une capacité beaucoup plus importante. Je crois qu'il y a d'autres graphes dessous. Je sais pas s'ils sont vraiment intéressants. Voilà, il y a celui-là. Si, celui-là est intéressant. C'est le poids du nœud dans le consensus. On voit qu'ils voient bien, ça y est, un peu mieux, que j'ai plus de bande passante que zéro. J'ai une probabilité d'être un nœud sorti qui est de 0,004%. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très utilisé. Mais normalement, d'ici la fin de la semaine, ça devrait aller mieux. Je vais surveiller ça. Et vous pouvez le surveiller par là. Parce que ça, c'est public. Voilà, je me suis occupé de faire ça. Donc, et parce que c'est important de bien comprendre que tout le monde peut faire tourner des relais TOR. Il y a un peu que le nœud de sortie qui est un peu pénible à gérer au niveau administratif. Les autres nœuds consomment juste beaucoup de bande passante.
Et juste pour information, la distribution c'est Tails. Là, mon ordinateur il tourne avec le système qui s'appelle Tails dont on a parlé tout à l'heure.
Bonjour. Alors j'aurais deux petites questions par rapport à IPv6. Est-ce que les nœuds d'entrée et de sortie gèrent IPv6? C'est-à-dire si j'arrive sur un nœud d'entrée avec IPv6, est-ce que je vais pouvoir me connecter? Et en sortie, est-ce que je vais pouvoir me connecter à des cibles qui auraient uniquement IPv6?
Alors. Le code IPv6, il a commencé à être écrit il y a un an et demi. Il est à peu près fini. L'essentiel est bon. Pour l'entrée dans le réseau, ça marche. En tout cas, c'est possible de mettre ce qu'on appelle en place des bridges. C'est-à-dire, c'est juste des points d'entrée dans le réseau Tor, mais qui ne sont pas publics. Et donc, les bridges peuvent être IPv6. Donc, c'est possible de rentrer dans le réseau Tor avec juste une connexion IPv6. Ça, c'est bon. C'est possible de sortir avec... Il me semble que c'est possible de sortir en IPv6 sur un serveur qui ne ferait que IPv6. Ce qui n'est pas encore activé et ce qui pose des gros problèmes, c'est entre les relais de causer en IPv6, parce qu'en fait, il faut attendre, je crois, qu'il y ait plus de la moitié ou des deux tiers des relais qui sachent causer IPv6 avant de basculer. Sinon, c'est possible de partitionner le réseau et dans ce cas-là, on a plein d'attaques pour percer l'anonymat supplémentaire. Mais en tout cas, c'est un vrai travail, et c'est très, ça c'est, en tout cas, on a une vraie envie que ça fonctionne, ces histoires de discussion entre les relais en IPv6, parce que pour l'instant, le trafic IPv6, c'est pas cher du tout, voire gratuit dans certains cas, et donc que ça permettrait de faire tourner des gros relais pour vraiment pas cher. Alors, donc on espère que ça va se développer vite, voire très vite.
Il y a eu une question sur Internet pendant la conférence. Vous serait-il possible d'approfondir la responsabilité et les risques réels pris par les administrateurs d'un nœud de sortie Tor?
Alors, nous, on travaille pour nos oignons. On a travaillé avec un avocat. On a rencontré Maître Olivier Hugo qui a bien voulu nous voir et réfléchir à la question de Tor par rapport aux lois françaises et européennes. Et son analyse, c'est que vu qu'en tant qu'opérateur de relais Tor, on ne sélectionne pas le trafic, qu'on n'est pas à l'origine de ce trafic et qu'on ne modifie pas sa destination. En fait, on fait juste que transporter de l'information. On est un mire conduite, un simple tuyau. Et ça, la directive, l'article 12 de la directive du 8 juin 2000, si je ne me trompe pas, européenne, est très clair là-dessus, c'est-à-dire on n'est pas responsable. des informations. Quand on est un simple tuyau, ce qu'on fait transiter, on le fait transiter et c'est tout. Après, dans les faits, en France par exemple, on a le témoignage d'un opérateur de notre sortie qui depuis d'ailleurs, enfin qui maintenant fait partie du conseil d'administration de nos oignons, qui a été convoqué à la gendarmerie. Et entre autres parce que son autre sortie a été utilisée pour monter une arnaque par mail. Et donc les gendarmes sont venus le voir en disant bah, c'est vous. Puis il a dit bah non, c'est pas moi, je fais tourner un autre sortie Tor. Et puis les gendarmes étaient très curieux, mais pourquoi vous faites ça? Et alors il leur a expliqué qu'il avait envie de défendre la liberté d'expression, la liberté de communication, et puis ils ne comprenaient pas très bien, mais en tout cas, ils ont dit bon, bah, très bien, merci, au revoir. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de suite, en tout cas, c'est ce que pense Olivier Hugo. J'espère que j'ai répondu à la question.
Merci Lunar et Bypunk.